Vous écoutez
RMC.
Sébastien, merci, pardon, c'était passé.
Merci,
de...
ciao les gars.
À bientôt.
Salut Sébastien.
Oui, j'ai confondu avec David qui était l'auditeur précédent. Vous sentez d'ores et déjà, les gars, une sorte de Galtier, de style Galtier. Tu parlais tout à l'heure des distances entre Neymar et Messi.
Alors ça s'est pas répété en deuxième mi-temps.
Ouais.
La distance était beaucoup plus longue et comme par hasard, mais tu sais, il suffisait d'écouter nos commentateurs, et c'était souvent Neymar Messi, Messi Neymar. C'est vrai que Sarabia et Bilal, qu'on avait eu à la mi-temps, l'avaient dit, et Sarabia ouais. est laissé pour compte, mais les deux étaient très proches, et t'avais l'impression qu'il y avait une corde entre les deux. D'ailleurs, on fait des fois des exercices comme ça où t'attaches les deux, il faut qu'ils soient tout le temps à 20 mètres l'un de l'autre, et puis qu'ils puissent jouer. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on attend. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant, je ne sais pas, les joueurs n'étaient peut-être pas, voilà, il y a des circonstances, en tout cas là c'est fait, et quand tu as deux joueurs comme ça, deux monstres comme ça, tu peux pas t'en priver. Ils s'en sont privés en deuxième mi-temps. Je trouve que le jeu du PSG a été moins poussé vers l'avant, moins rapide dans les touches de balle et tout ça, et surtout quand t'as un Neymar qui joue en une touche de balle, mais quand t'as Messi qui est juste à côté, qui passe et qui va, et que Neymar, il passe à Neymar, Messi redemande derrière, Neymar est capable de la mettre. Neymar, c'est un mec qui est capable de jouer en une touche de balle, mais à condition aussi qu'il ait les opportunités, qu'il ait l'envie, que, et quand t'as un mec comme Messi, quand t'as même Sarabia fait des appels et tout ça, il a pas été servi, ok, mais t'as envie de jouer en une touche de balle quand t'as des appels de balle. C'était pas tout le temps le cas. Là, les joueurs se vont vers l'avant, les joueurs se on appelle ça le passe et va. Cette année, il y en a pour l'instant, j'espère que ça va durer comme ça, l'instant, oui, ça c'est l'effet Galtier, j'en suis persuadé.
Mais pour le moment, en ce qui concerne l'effet Galtier, donc évidemment qu'il y est pour quelque chose, c'est tout à fait logique, mais je trouve qu'il a l'intelligence aussi de s'adapter lui à des choses nouvelles, notamment un niveau de joueur qui n'a jamais connu, même s'il a eu la chance d'en avoir des bons. Mais là, quand tu vois ceux de Paris Saint-Germain, mais tu te pèses quand tu es entraîneur, et je suis pas étonné de l'entendre dire qu'il est très heureux et qu'il a même l'impression de rêver. Mais pour ce qui est de cette fameuse patte là, c'est l'expression à la mode. N'oublions pas quand même que Christophe découvre les trois arrières centraux. Je l'ai rarement vu jouer avec trois arrières centraux ces dernières saisons. Ensuite, il faut arriver à se partager le boulot pour être quand même solide. Dans les trois axiaux, que paraît-il, il y a eu des débats comme quoi c'est impossible de jouer trois axiaux, je dis les trois offensifs, hein, je voulais dire. Mais pour moi, les trois offensifs, s'ils se replacent un peu, ben, tu as quand même sept joueurs plus un gardien de but, tu peux défendre s'il y en a au moins un des trois qui se replace. Et ça, j'ai l'impression que ça se passe rapidement. Le seul, je te dis, petit truc là, c'est la position de Ramos. Sinon, le reste, je trouve pratiquement parfait. Et ensuite, l'utilisation des trois monstres, quand Kylian va reprendre sa place, on va suivre ça avec beaucoup
d'attention. Ça va être encore une autre animation.
Avec beaucoup d'attention. Pour moi, par exemple, Détroit, celui, puisque Détroit, tu peux me raconter ce que tu veux, même si Mbappé est monstrueux et qu'il peut jouer à tous les postes, c'est pas un numéro 9. Donc, celui qui, pour moi, ressemblerait aller le plus à un numéro 9, c'est Neymar. Un numéro 9 technique qui garde le ballon. Et Mbappé, Messi, si on parle d'un V, en retrait de Neymar en pointe, et après Neymar qui peut décrocher, et Mbappé qui peut évidemment se faufiler dans la zone qui a été ouverte par Neymar. Et là, sincèrement, je m'imagine être un adversaire du Paris Saint-Germain. Écoute, j'ai mal à la tête rien que d'y penser.
Tiens, on a David qui est supporter de Clermont, qui était au stade. Salut David.
Bonsoir.
Bonsoir David.
David, tu avais un petit coup de gueule à passer.
Oui, tout à fait. Je suis super content de vous avoir. Ça fait longtemps que je vous écoute. C'est une première pour moi.
Nous aussi, bienvenue.
Et puis, honoré de parler à M. Courbis et M. Charbonnier avec toute leur carrière qui nous ont ravis.
Merci,
c'est gentil.
Moi, j'avais un coup de gueule contre les supporters de Clermont, et plus précisément les footix présents dans le stade, qui ont, à un moment donné, sur le but de Messi, qui certes est somptueux, le dernier but, mais on s'est cru au Camp Nou, quoi. Tout le stade a repris Messi, Messi, comme si on était au Parc des Princes et que l'ensemble du stade était à l'image du parc, quoi.
Donc, ça t'a vexé, toi, le Clermontois ?
T'es méchant, David.
Non, je suis pas méchant, je suis réaliste, on est Clermontois, on est fiers de l'être.
Oui, moi je comprends, David.
Pour
moi.
Supporter notre club, notre ville, notre région. C'est notre deuxième saison en Ligue 1, on essaye de pousser nos joueurs au maximum et je peux les comprendre que, alors là aussi je suis un petit peu déçu, mais je les comprends quelque part, qu'ils ne fassent pas le tour du stade à la fin quand on voit que les supporters supportent plus les adversaires.
Ouais, donc, alors après, quand t'en as pris 5, t'as pas trop envie de faire le tour du terrain, tu vois.
Tu peux
les remercier. Y a pas de souci. Moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, tu vois, j'ai revécu, et je sais plus quel auditeur nous disait, j'ai revécu un petit peu ce qu'avaient fait, les supporters de la Juve avec le but fantastique de Ronaldo, à la Juve, justement, où tout le monde s'est mis, c'était un but fantastique. Là, je pense que ça a été quelque chose, ça a été une réponse, alors non pas des Clermontois vis-à-vis des Parisiens, mais surtout par rapport à tout ce qu'a vécu Messi, là il a fait un grand match. Attention, toute proportion gardée, on l'attend encore une fois face à des adversaires individuellement beaucoup plus forts, et on va voir s'il fait les mêmes prestations. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais au moins c'est une belle réaction de Messi, et quant à l'un des meilleurs joueurs du monde, avec tous les ballons d'or qu'il a eu et tout ça, et puis avoir ce visage là et savoir rebondir, franchement, je suis pas choqué que saluent ça.
Moi, je suis totalement d'accord avec David. Hein. Ça avait déjà été le cas à Reims l'année dernière, à Reims, où en fait les gens du COP rémois, enfin les ultras rémois, ils disaient mais c'est pas possible. Nous, on a des gens ici, ils viennent juste pour voir le PSG. C'est insupportable et tout. On est à Reims. Voilà, c'est l'histoire du supporterisme qui est comme ça.
Je comprends les deux côtés.
Clairement, toi, tu vas au stade, tu viens ton équipe, tu vois que tout le stade est pour le PSG. Tu dis, attends, on est où là ?
Vous pensez pas que là, en étant début août, Dans le stade, il y avait aussi une bonne partie de touristes.
Clermont, on n'a pas beaucoup de touristes. Hein.
dans la région, allez, considérons dans un rayon de 100 km. Donc tu peux quand même, avoir vu. Ouais,
David, vois un peu ta région quand même. Il y a des coins sympas.
Ouais, tu peux quand même avoir vu le calendrier et te dire tiens, je vais me faire un tour du côté de Clermont pour aller applaudir Neymar, Mbappé et Messi.
Tout à fait, je l'entends. Mais après, moi, c'était surtout quand Ramos est sorti, tout le stade l'a applaudi et j'ai pas trouvé ça choquant. Au contraire, j'ai trouvé ça très respectueux et très louable. Mais le fait qu'on se... Enfin, honnêtement, hein, quand Messi a marqué son but, certes, qui est splendide, je me suis cru au Camp Nou. Enfin, quand je regardais les matchs à la télé de Barcelone et que Messi marquait que... Ouais, voilà,
C'est-à-dire que le souvenir que tu as, et en même temps, je rappelle là ce qui est pour moi... Si je suis joueur de Paris Saint-Germain, un très mauvais souvenir, c'est que la saison dernière, Lionel Messi s'est fait siffler au parc, pas seulement à la composition d'équipe, à chaque fois qu'il a touché le ballon. Et ben ça me paraissait
Maintenant,
tout simplement.
Maintenant, il est ovationné à Clermont.
Anormal.
Le football est logique, Roland. Le football est logique.
Ben oui, sincèrement, je me pince.
Oui, vas-y, vas-y.
Charbonnier, par rapport à Ronaldo à la Juve, j'espère que Messi finira à Clermont l'année prochaine.
Non, mais après, c'est vrai que dans l'histoire du foot, quand il y a eu une performance extraordinaire d'un joueur, ça s'est vu que même le public adverse se lève en disant bravo, on connaît le football, donc on salue la performance.
Exactement, mais c'est vrai qu'on était venu en famille avec ma chérie et notre Toulou, et ouais, ça nous a un petit peu choqué le comportement des supporters clermontois et voilà.
Est-ce que ça te fait pas peur, toi, David, justement, avec cette fameuse tribune qui ne va plus exister bientôt? Donc, tu parlais de l'ambiance des Clermontois. Justement, ça va encore plomber l'ambiance. Savoir que l'année dernière, quand même, il y a beaucoup de matchs qui se sont gagnés à Clermont. S'il y a eu ce maintien, c'était aussi, il y a eu une communion et tout ça. Et ça va tout casser, non? Enfin, moi, ça me fait peur.
Ben, nous aussi, en plus, on est dans cette tribune qui va disparaître. On est abonné dans cette tribune qui va disparaître. Et ouais, pour beaucoup, pour en avoir parlé avec pas mal de supporters qui sont également abonnés dans la tribune, on comprend pas qu'ils l'aient fait cette année, qu'ils aient pas attendu, voir ouais. si on se maintenait une deuxième saison.
Exactement.
Et peut-être, voilà, projeter bah, cette construction un petit peu plus qui dure depuis quand même les années 90. Bah, ça fait quand même presque 30 ans qu'on attend d'avoir un vrai stade à Clermont. Et puis voilà, maintenant ça commence à avoir des tensions en plus en interne avec un des dirigeants qui a été plus ou moins mis à la porte.
Oui, Jérôme Champagne.
Ouais. Exactement, ouais. On entend parler que le président veut vendre à un investisseur américain pour 80
millions. David, je vais te couper parce qu'il y a Christophe oui. Galtier qui arrive en conférence de presse. Merci David.
Et bonne soirée, à bientôt.
Salut, allez, Galtier en direct.
Chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, quelle que soit la zone où se trouvait le porteur de balle. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de réactions à la perte. Et ça, c'est évidemment, on insiste sur ça, j'insiste avec mon staff, j'en parle beaucoup avec les joueurs. Et évidemment, à la fois sur le match de la semaine dernière face à Nantes, mais ce soir aussi, dans ce sens-là, c'est très bien, mais ça ne reste qu'un match. Mais c'est bien.
Allez, on écoute encore une ou deux réponses. Galtier, Christophe Galtier en direct après la victoire du PSG 5-0. Ah, on n'entend pas les questions malheureusement, donc on va se contenter des réponses.
On aura compris la question.
Voilà.
Le football est un jeu, et par définition, quand on joue, on doit prendre du plaisir. Mais le plaisir ne peut être présent que si tout le monde joue à l'unisson et tout le monde fait les efforts pour les uns et pour les autres. Évidemment, il y a la manière dont on attaque et la qualité individuelle de ces grands joueurs qui fait que les enchaînements techniques sont très bons, même si, à mon sens, on a eu du déchet qu'on n'aurait pas dû avoir à un certain moment. Mais il y a après aussi cette volonté de travailler tous ensemble. Les matchs, il y a toujours des moments charnières dans un match où il faut montrer qu'on est là, présent, qu'on n'est pas dans le relâchement. Et quand vous avez voilà, c'est dans ces deux parties du match ou du football, cette capacité à vouloir jouer ensemble sur un plan technique et jouer les uns pour les autres, mais aussi de faire l'effort et les compensations pour les uns et les autres, évidemment qu'il y a une notion de plaisir qui est là et c'est quelque chose que l'on doit encore travailler mais qu'on doit toujours développer, toujours avoir en tête de n'avoir aucun relâchement quel que soit le match, quel que soit le score, quel que soit l'endroit.
Ah, Christophe Galtier, encore une réponse. Là on n'a pas appris grand chose hein.
C'est ce qu'on avait dit jusqu'à
maintenant. Leçon générale de coaching.
C'est exactement ce
message
là
que vous
avec lui. Oui, nous avons échangé. J'ai échangé avec Léo pendant notre séjour au Japon et j'ai échangé aussi avec mon secteur offensif pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Léo a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il a une culture, il voit vite où il doit se mettre. La manière dont il défend, la manière dont il se positionne pour jouer avec les uns et les autres. Voilà, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs qu'il a autour de lui. Et à partir de ce moment-là, quand Léo sourit, évidemment que l'équipe sourit aussi.
Il y a encore une réponse et après on laissera Christophe Galtier. Pas mal ce qu'il raconte sur Messi là. Ça donne l'impression, on en reparlera le Roland Lionel. En gros, il lui a dit voilà, comment tu veux jouer, où est-ce que tu veux jouer.
Exactement.
Et on va faire
comment
en fonction.
Comment tu veux que ça s'organise devant toi.
Il y a toujours à trouver un geste pour surprendre l'adversaire, mais aussi peut-être ses coéquipiers. Même Neymar a eu vraiment le sourire au moment du tournoi.
Pas long cette question. Là.
Surpris de son geste, non. J'ai apprécié évidemment le but. Vous savez. Léo, ça fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a eu une saison un peu difficile la saison dernière. Il fallait s'acclimater, voilà, il y a un changement de vie radical. Mais toutes les saisons auparavant, c'était au minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu'il a ses repères à la fois au niveau de sa vie familiale, mais au niveau aussi de son club, de l'équipe, de ses partenaires, il n'y a aucune raison que Léo ne fasse pas une grande saison. Voilà. Et quand il sera évidemment associé à Kylian, il y aura encore beaucoup plus de pouvoir offensif. Et c'est sur cela aussi que je dois trouver le, non pas le meilleur équilibre, mais la meilleure animation possible pour que le, pour que notre secteur offensif soit performant avec les uns et les autres tout au long de la durée des matchs.
Voilà pour Christophe Galtier. On va reparler de Messi dans quelques minutes, mais aussi de Zaïre Emery, puisqu'on a Younes qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui connaît bien ce jeune joueur. Ça nous permettra de faire un petit point sur ce que Roland a dit pendant le match. Là. Faut-il lancer des joueurs aussitôt en Ligue 1, puisqu'il a 16 ans, hein, le jeune Zaïre Emery. On en reparle dans quelques instants, sans oublier le match Strasbourg-Monaco également à débriefer dans l'after. On est là jusqu'à minuit, à tout de suite avec Lionel et avec coach.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
23h29, coach Courbis est là, Lionel Charbonnier est là, le PSG au programme encore quelques minutes. Tiens, Galtier a parlé de Mbappé également ce soir. Il n'était pas là, il a raté les deux premiers matchs. Possible de le voir le week-end prochain. On n'a pas voulu prendre de risques. Voilà. Il dit évidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des Champions, Kylian aurait peut-être participé. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas bien grave.
Aucun risque. C'est intelligent.
Voilà. Autre sujet, autre joueur, on va parler du jeune Warren Zaïre Emery. Il est né le 8 mars 2006. Il a 16 ans, il est rentré ce soir et Younes est avec nous. Younes, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Younes, bonsoir, tu connais bien cet adolescent parisien.
Oui, je le connais bien. J'ai eu l'occasion de l'entraîner à Aubervilliers avec l'équipe du FCM Football Club et d'Aubervilliers. Et du coup.
Il avait quel âge, Younes, quand tu l'as entraîné?
Il avait 5 ans. Il était déjà dans tous les tournois, il était avec les équipes au-dessus. C'est-à-dire à l'âge des U8, U9, tu vois. C'était une pépite. Franchement, c'était une pépite, tu vois. À l'âge de 5 ans, 6 ans.
Donc là, toi le voir là, démarrer là, enfin jouer là, en Ligue 1, t'es pas étonné?
Franchement, je suis pas étonné, parce que dès qu'on les ramène dans les tournois, à chaque fois, à la fin du tournoi, meilleur joueur, c'était qui? C'était Warren. À chaque fois, fin du tournoi, c'était lui. Mais il jouait là, il joue bas, là, tu vois. Mais à l'époque, il jouait vraiment, c'était un numéro 10, un numéro... même des fois, il allait sur les côtés, numéro 9 aussi. Hein. C'était un ailier, numéro 9 aussi. Hein. Vraiment, et ça se voit même sur le terrain. Si vous avez regardé le match de ce soir, son déplacement, il est tout le temps amené à aller vers l'avant. Et c'est une pépite, franchement. Et là, le voir jouer bas comme ça, avec autant de... Je ne sais pas si vous avez vu un jeune de 16 ans comme ça, avec autant de rigueur, autant de simplicité dans son jeu, c'est rare de nos jours, hein, franchement.
Alors attention, parce que ça, c'est un sujet qui intéresse coach Courbis. Pendant le match, tu nous disais, tu étais étonné, Roland, de dire, attends, est-ce que 16 ans, ce n'est pas trop tôt?
Non, mais moi, j'ai ma réponse.
Moi, je dis, c'est trop tôt.
Mais c'est trop tôt, et je peux expliquer le pourquoi. Premièrement, parce que j'ai des souvenirs d'avoir connu des joueurs de 16 ans, mais on peut pas aller contre nature. À 16 ans, j'ai toujours discuté quand même avec des médecins. On me dit que les articulations ne sont pas terminées, la croissance n'est pas terminée, le cartilage n'est pas encore terminé. Ça peut faire après des problèmes qu'on appelle Osgood, pas Osgood. J'ai connu Luxin. J'ai jamais vu un joueur aussi talentueux. Il avait les yeux derrière la tête. Il voyait tout avant les autres. J'ai connu Paganini à Saint-Etienne. Il a commencé à 15 ans. À 15 ans et demi, j'ai vu Laurent Rousset se péter le genou à 16 ans et demi. Et pourquoi pas 12 aussi, tant qu'on y est. Je pense.
Oui, ce que tu dis là n'enlève rien à la qualité du joueur, c'est une gestion en fait.
Mais pas du tout. Je trouve dommage qu'on bousille un joueur sans s'en rendre compte. Quand on me parle qu'on a 16 ans ou 16 ans et demi, évidemment qu'il peut jouer en 10, il peut jouer en 9 et qu'il était au-dessus de tous ses coéquipiers jusqu'à aujourd'hui, mais calmons-nous, qu'ils puissent avoir la chance et la possibilité de s'entraîner avec les Mbappé, Neymar, Messi. Mais de là à jouer en première division aujourd'hui, je trouve ça dangereux et je trouve ça imprudent. Après, c'est ma vision, hein, c'est pas obligatoirement la bonne, alors, mais c'est la mienne.
Avant d'aller, Lionel, avant que tu donnes ton avis, on va écouter Gastien, le coach de Clermont. Il est. On va écouter sa réponse, sa première au moins suite à la défaite de son équipe. Ouais. On va peut-être parler tactique, là, vu que tu as dit que tu pas tout à l'heure.
Un petit peu ça. On pouvait espérer avant le match. Faire un petit peu mieux, mais bon, vu la qualité de l'équipe qui est en face, je pense qu'il n'y a pas de surprise en tout cas.
On respire pas le dynamisme.
À plus
Gastien, on écoute encore. Tiens, voilà, la stratégie, c'est intéressant.
Je pense que ça aurait, enfin, à mon avis, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc pourquoi le faire ? Ça nous permet de, j'oserais presque dire que ça nous permet de préparer la suite. Donc voilà, c'est un match qui doit nous servir, dans le futur, parce qu'on a fait aussi des erreurs, mis à part la très grande qualité de l'équipe qu'il y avait en face. On a aussi fait quelques erreurs, donc qu'on ne doit pas reproduire. Mais on ne souhaitait pas fermer le jeu à tout prix pour perdre 1-0 sur un match qui va être très intéressant. Alors on a joué, on a perdu et on va recommencer. C'est ce qu'on faisait l'an dernier. On ne sait pas où ça nous mènera, mais ça fait partie de ce que moi je pense qu'on doit faire en tout cas.
Ah ben voilà, c'est assez clair là. Rebondir sur notre premier débat. Il va jouer. Hein.
Non.
Voilà pour Gastien. Bon, il confirme. Bon, on va dire qu'il est cohérent avec ses idées.
Oui, écoute, s'il pense qu'il a une vision du football, qui est une vision du football, qui est la sienne. Après, que l'on puisse ne pas être d'accord en se disant, mais tiens, la mienne, c'est que quand je rencontre un voisin à ce moment-là, un autre club qui va lutter pour ne pas être dans les quatre derniers, je vois les choses d'une certaine façon. Et quand je rencontre le Paris Saint-Germain, je vois les choses d'une autre façon. Si après, quand tu rencontres le Paris Saint-Germain, tu fais exactement la même préparation tactique, psychologique et tout que quand tu rencontres trois, bravo.
Bon, revenons maintenant sur le débat Zaïre Emery, là. Donc, jeune de 16 ans. Alors, d'ailleurs, c'est un record. Hein. C'est le plus jeune joueur qui a jamais joué pour le PSG. Donc, 16 ans, même pas 16 ans et demi, puisqu'il aura 16 ans et demi début septembre.
Oui.
Lionel, t'as entendu les arguments de Roland ? Comment tu te positionnes, toi ?
Oui, je les entends. Alors, moi, fut un temps, je pensais exactement comme Roland. Et maintenant, j'ai avec du recul, je me dis que, alors, 16 ans, c'est peut-être un petit peu exagéré. Sauf que, quand je regarde, je trouve que notre préformation est complètement différente. Préformation est complètement différente. On est plus avancé. La formation est plus avancée. On arrive à avoir des joueurs beaucoup plus mûrs, beaucoup plus tôt maintenant. Et Younes pourrait en parler aussi. Lui qui a connu qui connaît ces jeunes joueurs et ces futures pépites. On est dans la médecine sportive aussi, on est beaucoup plus avancé et on est capable de voir, par exemple, et d'anticiper si un joueur aujourd'hui va te faire une Hochgutschläser ou pas. Cette maladie du footballeur qui est utilisée trop tôt, dont parlait tout à l'heure Roland, il n'y a pas que ça. Et là, il a raison.
Comment s'appelle la maladie en question, là ?
L'Hochgutschläser, c'est une maladie un peu au niveau des os,
les micro-fractures. Les cartilages sont pas encore arriver à point et donc
c'est le périoste qui n'est pas solidifié, pas trop les cartilages Roland, mais surtout le périoste, tu sais, c'est ce qui entoure l'os et ça crée des micro-fractures et voilà, tu sais, comme si le joueur avait la jambe cassée, hein. C'est la même chose, hein. Donc t'es obligé d'arrêter les joueurs très longtemps des fois, hein, comme si t'avais une jambe cassée. Donc il faut faire très attention.
Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Après je t'écoute attentivement. Que tu nous développes des arguments que évidemment ça progresse dans tous les secteurs, y compris dans la médecine. Ok.
Dans l'alimentation aussi.
Ok, mais on ne va pas quand même aller contre nature. Je pense que quand on a 16 ans, c'est trop tôt. Et si, par exemple, c'est pas trop tôt, je te demande un peu de patience d'attendre une douzaine de mois pour aller considérer qu'à 17 ans, c'est beaucoup moins dangereux et c'est beaucoup plus prudent. Si après, tu veux, à 16 ans, vas-y à 16 ans. Et si, par exemple, ça te bousille à ta carrière qui, elle, dure 15 ans, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand je vois Pogba, ce joueur talentueux, avoir démarré à 16 ans ou 16 ans et demi, et aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, ne jouer plus que 2 mois par saison,
Eh ben, je me dis, tiens, si on posait la question à Pogba, et peut-être est-ce qu'il regretterait pas d'avoir démarré aussitôt. C'est les questions que je me pose. Et pour moi, si on me demande conseil, je dis patience. Ta carrière ne dure pas 2 ans, elle dure 15 à 16 ans. Donc fais des bons entraînements, débrouille-toi, allez après, si tu rentres un quart d'heure en fin de match pour te faire plaisir. Et encore, je trouve que c'est dangereux. Voilà, c'est tout.
Bon, concluons, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets. J'aimerais que, je remercie Younes, hein, au passage, qui nous a lancé le débat sur le jeune Zaïre Emery, donc 16 ans, qui a joué ce soir avec le PSG. Il faut quand même qu'on développe un peu sur Messi, parce que ce qu'a dit Galtier est intéressant, parce que, bon, c'est moi qui fais mon interprétation, je ne sais pas si vous avez la même, donc on peut quand même se penser que là, Galtier qui dit, voilà, moi j'ai discuté longuement avec Messi au Japon, sur la façon dont il voulait jouer, sur la tactique et tout, donc on peut penser qu'il y a eu là une sorte de, comment dirais-je, de discussion et que l'utilisation de Messi va se faire de concert. C'est-à-dire, Galtier a clairement dit à Messi, OK, comment tu veux jouer? Comment on va s'organiser? Et mettons-nous d'accord ensemble, en fait. C'est comme ça que vous l'avez compris?
Oui, oui. Alors après, et notamment par rapport à sa relation, alors en milieu de terrain, mais surtout, il a parlé aussi tout de suite derrière de Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je vois déjà les propos, ils vont dire, ah bah ça y est, normalement, on a fait signer Kylian, il fallait construire autour de lui, et puis là, Galtier, il est en train de construire autour de Messi. Mmh. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. C'est comment je peux te mettre, dans quelle situation je peux te mettre, où tu veux te retrouver, pour pouvoir utiliser au maximum tes attaquants, et être toi aussi performant et heureux dans tes prestations. C'est tout. Ça veut pas dire que le football de Paris va se faire autour de Messi. Hein. Je voulais mettre un bémol là-dessus.
Oui, Roland, moi je t'ai entendu toute la saison dernière dire ce qu'a dit Galtier là. Il a dit, écoutez, voilà, il a changé complètement d'environnement après 21 ans à Barcelone et tout. Ouais. Donc, c'est en gros, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation, tout Messi qu'il est.
Bah, écoute,
ça, c'est ce que t'as dit toi longtemps.
Mais chacun sa vision. Moi, j'ai toujours pensé que c'était tout à fait logique, même pour un joueur qui est peut-être le meilleur joueur du monde de ces dernières années. Mais tu ne peux pas ne pas être perturbé quand tu changes tes habitudes que tu as prises pendant 21 ans. Quand on me parle qu'il joue depuis 17 ans, oui, mais il est arrivé 4 ans avant. Ça fait 21 ans qu'il est au Barça. Et si ce gars-là était arrivé en plus en fin de mercato, dès qu'il débarque, il doit partir jouer avec son équipe d'Argentine. Mais si ce gars-là n'avait pas été perturbé, là on aurait pu penser que c'est un extraterrestre. Mais non, c'est un être humain. Donc un être humain, et c'est pour ça que c'est pas un exploit pour moi d'avoir fait l'avocat de Messi pendant un an. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Et là, maintenant, quand je vois ce Messi souriant, et j'ai bien aimé la comparaison avec ce qu'a pu faire. Et c'est vrai que si Messi sourit, ben ça se transmet, hein, le sourire d'un joueur aussi talentueux. Et là, on le voit dans les embrassades quand il y a un but et tout ça. Tout le monde est content. Sur le banc, tout le monde est content. Alors après, est-ce que ça va durer? Oui, mais pourquoi ça durerait pas avec tous les talents qu'il y a? Il y a un duo à la tête de ces talents qui est Galtier et Campos, mais qui sont très complémentaires et qui sont même plus que complémentaires, je les vois complices, et que l'on puisse régler un problème avec Messi, mais c'est le contraire qui serait anormal. Là, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Christophe, on va pas féliciter Christophe d'avoir discuté avec Messi pour demander avec Messi qu'est-ce que c'est qui préfère. C'est le contraire qui aurait. Et si justement, quand je dis c'est le contraire, mais peut-être même que le coach de la saison dernière, même si il avait oublié de parler français, eh bien il parlait au moins argentin, il pouvait quand même régler le problème avec Messi. Mais le Messi de la saison dernière, ça n'a rien à voir avec ce Messi d'aujourd'hui, qui est tranquille. Tu le vois, il s'est adapté à son nouveau pays, à ses nouvelles habitudes, ses gosses à leur nouvelle école. Et bon, il vivra pas la fin de ses jours sur Paris. Mais là, aujourd'hui, il est heureux. Et quand on a la joie de vivre, eh ben, on a la joie de jouer.
Lionel?
Bah, tout a été dit.
Très bien.
Tout bon, a été dit. Non, j'ai rien à rajouter. On était d'accord l'année dernière avec Roland. On l'a souvent dit. Et puis, il faut s'attendre. Bon, là, aujourd'hui, il marque deux buts. Mais moi, je ne m'attends pas à ce que Messi devienne le meilleur du buteur et marque ses 30 buts. Personnellement, on en parlait ce matin avec Roland dans les paris. Mais je ne le vois pas marquer 30 buts. Mais par contre, jouer un petit peu plus en retrait, comme il a montré l'année dernière, et puis faire briller, et notamment Kylian et d'autres joueurs, peut-être parfois à son propre détriment de buteur qu'il a pu être. Moi, je le vois plutôt comme ça.
Mais dans
et je serais pas déçu d'avoir un Messi comme ça, rayonnant. Et c'est comme ça qu'il va marquer plus de buts que l'année dernière.
Dans la réflexion de Messi, dans la réflexion d'Mbappé, je suis persuadé que une des raisons, je dis pas la seule, mais une des raisons est la plus importante, une des plus importantes, c'est que Mbappé, quand il décide de rester, il y a des tas de raisons. Côté financier, ok, évidemment, mais s'il va au Real, il aurait eu... Ouais,
il n'aurait pas divisé son salaire.
Voilà. Donc, mais il y a la proximité de la Coupe du Monde, ça aurait pour moi été imprudent, mais il y a aussi les passes que Messi est capable de faire. Et Mbappé, ces appels-là, ils servent à Messi aussi. Donc, la possibilité de voir une complémentarité entre le passeur Messi et les appels d'Mbappé, ben j'essaie de trouver, je laisse Neymar un peu de côté, qui lui aussi, on ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, il y a un carnaval, boum, il se déguise. Donc ça, on peut pas le savoir. Mais par contre, pour ceux qui sont normaux, c'est-à-dire les normaux Messi et Mbappé, ben là, on parle d'une relation Messi-Neymar, oui, parce qu'il n'y a pas Mbappé. Mais les appels d'Mbappé et les passes de Messi, eh bien, tu essaieras de me trouver ça dans une autre équipe de notre championnat d'Europe. Ben, j'essaie de la trouver, cette complémentarité. Il y a peut-être, ouais, du côté de City, peut-être, allez, Benzema avec... oui, peut-être. Mais enfin, je mets ce duo-là au-dessus des autres.
Allez, concluons sur Paris. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On en reparlera sans doute demain soir dans l'after. After, bien sûr, de 20h à minuit.
Il y a un truc.
Et lundi.
Excuse-moi,
et super.
Oui. Il y a un truc qui a été dit quand t'as donné, tu sais, la parole à Galtier. La première chose qu'il a dit, on avait insisté là-dessus, c'était le pressing des Parisiens. Ça, je regrette.
Le pressing,
mais
à la perte du ballon.
À la perte du ballon durant les 20 premières secondes. Il a mis l'accent là-dessus. On l'avait dit. Je l'avais dit pendant l'analyse, pendant le match. C'est quelque chose de nouveau. Et tout l'effectif est concerné pendant ces 20 secondes, que ce soit Messi, Neymar, n'importe lequel, celui qui perd la balle, il est le premier concerné, et tous les autres derrière sont là pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible et mettre tout en œuvre. Ça, c'est la patte Galtier. Je ne l'ai pas vu l'année dernière, et ça aurait pu être fait avant.
Dans quelques instants, l'autre match du jour, on va parler de Strasbourg-Monaco, il y a beaucoup de choses à raconter là aussi, à débattre. Et puis toute l'actu avant les matchs de demain, notamment les dernières infos concernant l'OM, qui demain reçoit Reims dans un stade qui sera plein, hein, guichet fermé au Vélodrome demain soir pour le premier match de la saison. A tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Coach Courbissel, Lionel Charbonnier là, également 23h49, messieurs, Monaco. C'est repris après son match, on va dire que c'est moyen comme contre le PSV Eindhoven. Les gars, ils méritaient pas de perdre, hein, contre le PSV, on l'a dit mardi. Bon, enfin, ils ont pas gagné, et le match retour.
Non, bon, ils ont fait une première mi-temps très très moyenne. Ouais, il y avait une amélioration en deuxième mi-temps. Et le Monaco d'aujourd'hui, je le trouve un petit peu ressemblant de la deuxième mi-temps du match.
Sauf les 30 dernières minutes.
Quand même très différent, avec Diop titulaire qui a fait plutôt un bon match, Ben Yedder sur le banc, donc il avait fait tourner quand même Clément.
Oui, mais malgré ce, on a vu quand même une équipe de Monaco là, qui ressemble vraiment à quelque chose et qui, pour moi, a une énorme possibilité pour se qualifier.
Bon, voilà. Est-ce que tu dis quoi de Monaco, toi, Lionel, cet après-midi?
Écoute, de visage, oui, je suis d'accord avec Roland. Cette première mi-temps ressemble à la seconde de d'Endoven, mais par contre après, sous pression, Monaco n'a pas su gérer et les Strasbourgeois pouvaient mériter aussi l'égalisation. Donc
ça s'est joué d'ailleurs pas grand chose.
Ouais, exactement. Donc attention à Monaco d'arbitre. Sous pression me fait peur personnellement. Je demande à voir comment les joueurs vont se comporter face à une grosse pression du PSV. Écoute, on verra, mais je pense que aujourd'hui les Strasbourgeois ont payé face à une équipe plus en forme, plus en jambes, préparée pour
oui, essayer. Il y a une différence effectivement. Exactement. Sans doute de préparation. Ouais,
je pense.
Les deux équipes. Bon, tout de même, on a vu Mbolo actif, Jelson Martins n'a pas fait un mauvais match. Oui, Roland.
Comment il s'appelle
Crépin Diatta.
Ah bah ouais.
Il met un beau but. Ouais. Il revient un peu nulle part, qui était blessé la saison dernière.
Magnifique but. Hein.
Exactement.
Il a failli mettre un autre. Et puis n'oublions pas quand même que le meilleur joueur de Strasbourg, ça te résume tout. C'est quand même une fois de plus encore ton gardien.
Hein. Ça, c'est un problème, quoi. Quand ton meilleur joueur, c'est ton gardien.
Ah, ouais. Nouvelle a fait un bon match aussi, par ailleurs.
Et que tu joues à domicile.
Tiens, justement, on va parler un peu de Strasbourg. Thierry est là au 32-16. Bonsoir, Thierry.
Salut à tous, salut Gilbert,
salut Lionel, Thierry.
Coach. Bon Thierry,
salut,
Thierry. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là?
Waouh, plusieurs choses. Déjà, avant le match, un grand plaisir de retrouver la méno, l'ambiance, etc. etc. Mm. Ensuite, un premier match de championnat. Hein. Alors, déjà l'année dernière, on avait très très mal commencé la saison, donc je pense que c'est pas le moment pour tirer des enseignements, mais finalement une équipe notre équipe de Strasbourg qui a pas du tout changé, si ce n'est Delaine et Pierre Gabriel.
Donc oui, je pense que Delaine est meilleur d'ailleurs, je pense.
Oui, je pense qu'il y a un très très bon niveau de Delaine, mais comme Léo l'a dit, notre meilleur joueur quasiment comme l'année dernière, c'est Mats. Donc on voit qu'il y a des automatismes, mais on voit que Monaco, même avec une équipe bis, j'étais assez étonné que un mec comme Ben Yedder ne soit pas rentré, mais je pense que c'était même pas utile pour eux. Ils nous ont quand même bien baladé, surtout en première mi-temps. Donc voilà, à la fois pas d'inquiétude, quelques certitudes. Et toujours, voilà, ça c'est, je disais un ami à la 83e qui a pas trop l'habitude de venir à la méno, je lui ai dit, tu vois, on va se mettre à jouer maintenant. Et comme d'hab, on enflamme les cinq dernières minutes. Et bien sûr, avec cette belle erreur d'arbitrage de notre cher et tendre ami Le Texier, qui n'est pas très très apprécié à la méno.
Alors, pour ceux qui ont raté ça, faut quand même que je vous raconte. Donc, Strasbourg marque un but qui fait 2-2. Sur une action, alors il y a un centre, il y a une déviation de la tête de Djikou et une tête reprise par Diallo qui marque. Là, l'arbitre central, Le Texier, attend que le VAR confirme la validité du but. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a cette info-là depuis le monde de l'arbitrage, là. Figurez-vous que les deux arbitres du VAR Center, qui est à Paris, qui étaient en l'occurrence pour ce match, les messieurs Castro et Delajeune, ils sont pas d'accord. C'est-à-dire que Castro dit, il y a but, et l'autre, Delajeune, dit non, il n'y a pas but.
Et pourquoi ils en mettent pas trois?
Justement, le problème, en fait, c'est que là, tu te dis, qui doit trancher? En toute logique, l'arbitre central qui est sur le terrain, il va voir l'image, il discute, oui. Il y en a un qui dit on n'est pas d'accord.
Et il n'est pas allé voir l'image.
Et sauf que là, il n'est pas allé voir l'image. Donc en fait, il y a quand même problème là, les gars. Et j'ajoute autre chose, jamais le diffuseur n'a montré l'image. Vous voyez ? Donc là, il y a eu problème, il y a eu double problème. Où est passée cette foutue image ? Parce que ça laisse sous-entendre que, je pense que le diffuseur n'a aucun intérêt de ne pas vouloir la montrer, bien au contraire. Donc il y a eu une histoire. Normalement, ces images-là, elles viennent du VAR Center. Et qui a pris la décision finale, vu que l'arbitre central, Le Texier, n'est pas allé voir?
C'est ça le souci. Le souci, c'est que moi, je pense que quoi qu'il arrive dans le VAR, l'arbitre central doit rester...
Une fois.
Ouais. L'arbitre central doit rester maître de tout ça. Si les deux sont pas d'accord, soit t'en mets un troisième qui tranche et puis l'unanimité, ou alors tu demandes le troisième, c'est l'arbitre central qui va voir les images et qui. Mais si ça n'est pas fait,
je
comprends pas, mauvaise utilisation de l'outil.
Tu vois l'image, Roland, tu vois hors jeu toi?
Quand je regarde l'image, j'ai dit ça va. Ça,
mais est-ce
ça,
que ça va, eux ça, n'ont pas ça, d'autres
ça,
images
ça va, pas être différent.
Et apparemment, c'est un pied de Djikou qui détermine leur jeu. En fait, c'est toujours la même histoire.
Il y a beaucoup de choses.
Tu fais du 48, t'as plus de chances d'être en jeu que si tu es 37.
Mais il y a beaucoup de choses que je comprends pas.
Quand tu mets des chaussures
en l'air. Et notamment pour les mains, pour pénalty ou pas pénalty. Quand, par exemple, il y a un tir que le joueur. Il tourne les fesses et qu'il le prend dans.
C'était le cas de Dizazi pendant ce match, par exemple.
Des fois, il y a pénalty, des fois, il n'y a pas.
Ben là, il n'y a pas eu non plus.
Je ne sais pas quand c'est qu'il y a. Et en plus, là où tu peux avoir les boules quand tu es strasbourgeois, c'est que derrière ce but refusé, il y a encore deux occasions.
Non, mais surtout, moi, juste sur ce histoire de VAR, vous connaissez ma position sur le VAR. C'est-à-dire que là, en fait, le VAR, qui est censé résoudre les problèmes, ajoute de la confusion. Tu vois, et en plus, dans le process de décision, là, il y a un truc qu'on n'a pas compris, qu'il faudra bien qu'on nous explique. C'est en gros, qui a décidé?
Voilà. Bah, vu que les deux autres ne sont pas d'accord.
Bah oui.
Non, mais il y en a un qui a abdiqué.
C'est incroyable. Si tu veux faire. C'est incroyable.
Il y en a un qui est plus influent que l'autre.
Ouais, Thierry, tu veux rajouter un truc?
Non, mais justement, par rapport à la VAR, alors sans rentrer dans trop de grosses explications, mais j'ai commencé mon intervention par l'émotion de retrouver une méno pleine, ça chantait, ça riait, tu retrouves tes amis. Et en fait, quand on parle de football et quand on parle de VAR, on parle d'émotion. Là, tu fêtes un but pendant 4-5 minutes. Alors là, je dis pas ça juste parce qu'on nous a refusé un but à nous, Strasbourgeois. Mais encore une fois, ça casse les émotions, en fait. Ça casse les émotions. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et là, vous voyez, on est quoi? On est le 4-5 août. On est le début du championnat. Et on passe déjà un after à parler des soucis de la VAR. Et quand j'ai lu là en tout début de saison, voilà ce que la VAR a permis, par exemple, d'éviter 79 erreurs dans la saison. Bon ben super. Mais
non mais ça là-dessus, excuse-moi. Il y en avait ces avant, chiffres-là, quoi. Moi, envoyez-nous une vidéo. Je lance un message à Monsieur Garibian, le patron des arbitres. Envoyez-nous une vidéo. Montrez-nous les 79.
Parce que exactement.
Là, si toi, ouais. Moi, Lionel et Roland, chacun dans son coin, on regarde les 79, pas sûr qu'on arrive au même total à la fin, tu vois.
Ben exactement, oui. Et on n'aura même pas le même avis.
Voilà, donc bon, c'est bien joli ces chiffres. Mais...
Voilà, exactement. Mais bon
t'es vraiment pas objectif, toi.
Non, mais tu le sais très bien en plus, Lionel.
Bah oui, ouais. T'as raison.
Bon, Thierry, merci en tout cas et bonne saison avec le Racing.
En tout cas, le Monaco d'aujourd'hui, là, mis à part les quelques petites périodes, mais je le vois quand même se qualifier contre PSG.
Bah, espérons-le, pour le foot français, pour Monaco, ouais, ce serait super.
Bien.
Dernière petite info, vous dire que Veretout est qualifié pour jouer demain, coach. Donc, oui. Est-ce qu'il va jouer, pas jouer?
Bon. Attends, c'est une plaisanterie que, ou tu es sérieux?
Bah, moi, je pense qu'il jouera pas. Mais n'empêche qu'il est qualifié quand même.
Ah, ben oui, mais il va peut-être donner le coup d'envoi en civil. Donc, tac. Et puis, il va se faire applaudir. Mais tu veux pas quand même qu'il débarque, même vis-à-vis de ses coéquipiers et tout. Maintenant. C'est sûr, il y a des choses qui, il n'y a plus rien presque qui ne m'étonne.
Bon.
Mais bon, je ne pense pas que ça sera le cas, même dans son intérêt à lui.
Demain soir, ce sera sur RMC. Roland, tu auras tout loisir de donner ton point de vue sur la première compo d'équipe de Tudor en Ligue 1. Je sais que tu l'attends avec impatience.
Ben non, ce que ça va faire drôle à tous les supporters marseillais. Les joueurs, ils vont être à leur poste. Tu vas avoir un 9 en 9, un vrai 9. Tu vas avoir un vrai latéral. Tu vas avoir un latéral droitier qui va jouer à droite. Un latéral gaucher qui va jouer à gauche. Pour terminer les termes hybrides, pas hybrides, que je trouvais ça insupportable. Eh bien, on va voir ce que ça va donner. Hein.
Merci Roland, merci Lionel. C'est fini pour ce soir.
Salut à tous.
Demain, on sera là dès 20h avec donc un nouvel After Live et le match Marseille-Reims. Bonne nuit à tous.
RMC. L'After Foot.